Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme est paru en 1997 chez Gallimard dans la collection de l'Arpenteur. Ce fut un très grand succès. Et j'ai choisi de vous livrer aujourd'hui quelques-uns de ces plaisirs miniatures. La plupart sont indémodables, quasi éternels. D'autres sont devenus rares, comme lire son journal au petit déjeuner. Certains enfin ont disparu, comme le plaisir d'appeler d'une cabine téléphonique. Bref, allons-y, plongeons avec Delerme dans ces petits riens délicieux et un brin mélancolique. Aider à écosser des petits pois. C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit déjeuner, loin encore les parfums mitonnés du déjeuner. La cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur gousse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé. Je peux t'aider ? Ça va de soi, on peut aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense, juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais comme la cuisine de 11 heures. Cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés, tout prêts contre l'évier. Quelques carottes nues brillent sur un torchon. Finissent de sécher. Alors on parle à petits coups, et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre, à la fin d'une phrase. Mais l'autre doit garder la tête penchée. C'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, allégé contre-temps. Il y en aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse à gousse, manche retroussée. On passe les mains dans les boules écossées qui remplissent le saladier. C'est doux, toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau vert tendre, et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair, et puis il y aura juste le pain à aller chercher. On pourrait presque manger dehors. C'est le presque qui compte, et le conditionnel. Sur le coup, ça semble une folie. On est tout juste au début de mars, la semaine n'a été que pluie, vent et giboulée. Et puis voilà, depuis le matin, le soleil est venu avec une intensité mate, une force tranquille. Le repas de midi est prêt, la table mise. Mais même à l'intérieur, tout est changé. La fenêtre entr'ouverte, la rumeur du dehors, quelque chose de léger qui flotte. On pourrait presque manger dehors. La phrase vient toujours au même instant, juste avant de passer à table, quand il semble qu'il est trop tard pour bousculer le temps, quand les crudités sont déjà posées sur la nappe. Trop tard, l'avenir sera ce que vous en ferez. La folie vous poussera peut-être à vous précipiter dehors, à passer un coup de chiffon fiévreux sur la table de jardin, à proposer des pull-overs, à canaliser l'aide que chacun déploie avec un enjouement maladroit, des déplacements contradictoires. Ou bien vous vous résignerez à déjeuner au chaud. Les chaises sont bien trop mouillées, l'herbe si haute. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est le moment de la petite phrase. On pourrait presque. Parfois, on dit « on aurait presque pu ». Et là, c'est la phrase triste des adultes qui n'ont gardé en équilibre sur la boîte de Pandore que la nostalgie. mais il y a des jours où l'on cueille le jour au moment flottant des possibles, au moment fragile d'une hésitation honnête, sans orienter à l'avance le fléau de la balance. Il y a des jours où l'on pourrait presque.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
La première gorgée de bière. C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée. Gorgée ? Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit, la quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale. Le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenants et contenus peuvent s'interroger, se répondre en abîme. Rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée. L'autoroute, la nuit. La voiture est étrange. À la fois comme une petite maison familière et comme un vaisseau sidéral. À portée de la main, des bonbons menthe et glisse. Mais sur le tableau de bord, ses pôles phosphorescents, vert électrique, bleu froid, orange, pâle. On n'a même pas besoin de la radio. Tout à l'heure, peut-être à minuit pour les informations. C'est bon de se laisser gagner par cet espace. Bien sûr, tout semble docile, tout obéit. Le levier de vitesse, le volant, un coup d'essuie-glace, une pression légère sur le lève-vitre. Mais en même temps, l'habitacle nous, vous mène, impose son pouvoir. Dans ce silence capitonné de solitude, on est un peu comme dans un fauteuil de cinéma. Le film défile devant soi et semble l'essentiel. Mais l'imperceptible lévitation du corps donne la sensation d'une dépendance consentie, qui compte aussi. Dehors, dans le faisceau des phares, entre le rail à droite et les buissons à gauche, c'est la même quiétude. Mais on ouvre la vitre d'un seul coup et le dehors vient gifler la demi-somnolence. C'est la vitesse crue qui ressurgit. Dehors, 120 km à l'heure, on a la densité compacte d'une bombe d'acier lancée entre deux rails. On traverse la nuit. Les panneaux espacés, futuroscope, Poitiers nord, Poitiers sud, prochaine sortie, marais Poitevin, ont des noms bien français, qui sentent les leçons de géographie. Mais c'est une saveur abstraite, une réalité aveugle que l'on efface avec un vieux fond de roublardise cossarde. Cette France virtuelle que l'on abolit un pied sur l'accélérateur, un œil sur le compteur kilométrique, c'est une leçon de plus que l'on n'apprendra pas. Cafétéria, 10 km, on va s'arrêter. Déjà, on aperçoit la cathédrale de lumière toute plate au loin, et de plus en plus large, comme le port s'avance à la fin d'un voyage en bateau. Super plus 98. Le vent est frais. Cet assentiment mécanique du bec verseur, le ronronnement du compteur. Puis la cafétéria. Une épaisseur vaguement poisseuse, comme dans toutes les gares. tous les havres nocturnes. Expresso, supplément sucre. C'est l'idée du café qui compte, pas le goût. Chaleur, amertume. Quelques pas gourds, le regard vague, quelques silhouettes croisées, mais pas de mots. Et puis le vaisseau retrouvé, la coque où l'on se moule. Le sommeil est passé. Tant mieux si l'aube reste loin. Le journal du petit déjeuner. C'est un luxe paradoxal. Communier avec le monde dans la paix la plus parfaite, dans l'arôme du café. Sur le journal, il y a surtout des horreurs, des guerres, des accidents. Entendre les mêmes informations à la radio, ce serait déjà se précipiter dans le stress des phrases martelées en coups de poing. Avec le journal, c'est tout le contraire. On le déploie tant bien que mal sur la table de la cuisine, entre le grille-pain et le beurrier. On enregistre vaguement la violence du siècle, mais elle sent la confiture de groseille, le chocolat, le pain grillé. Le journal par lui-même est déjà pacifiant. On n'y découvre pas le jour, ni la réalité. On lit Libération, Le Figaro, Ouest France ou La Dépêche du Midi. Sous la pérennité du bandeau-titre, les catastrophes du présent deviennent relatives. Elles ne sont là que pour pimenter la sérénité du rite. L'ampleur des pages, l'encombrement du bol de café permettent seulement une lecture posée. On tourne les pages précautionneusement, avec une lenteur révélatrice. Il s'agit moins d'absorber le contenu que de profiter au mieux du contenant. Dans les films, les journaux sont souvent symbolisés par la frénésie des rotatives, les cris surexcités des vendeurs dans la rue. Mais le journal que l'on découvre au petit matin dans sa boîte aux lettres n'a pas la même fièvre. Il dit les nouvelles d'hier. Ce faux présent semble venir d'une nuit de sommeil. Et puis les rubriques sages comptent davantage que le sensationnel. On lit la météo, et c'est d'une abstraction très douce. Au lieu de guetter au dehors les signes évidents de la journée, on les infuse du dedans dans l'amertume sucrée du café. La page des sports, surtout, est immuable et rassurante. Les défaites y sont toujours suivies d'espoir de revanche. Les échéances se renouvellent avant que les tristesses ne soient consommées. Il ne se passe rien dans le journal du petit déjeuner, et c'est pour ça que l'on s'y précipite. On y allonge la saveur du café chaud, du pain grillé. On y lit que le monde se ressemble et que le jour n'est pas pressé de commencer.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Appelé d'une cabine téléphonique. Ce n'est d'abord qu'une succession de contraintes matérielles toujours un peu embarrassées. Oh, la lourde porte hypocrite dont on ne sait jamais s'il faut la pousser tirer ou la tirer pousser. La carte magnétique à retrouver entre les tickets de métro et le permis de conduire, contient-elle encore assez d'unités ? Puis le regard rivé sur le petit écran, obéir aux consignes, décrocher, attendez. Dans l'espace clos, trop étroit et déjà embué, on se tient ramassé, crispé, pas à l'aise. Le pianotage du numéro sur les touches métalliques déclenche des sonorités aigrelettes et froides. On se sent captif dans le parallélépipède rectangle, moins isolé que prisonnier. En même temps, on sait qu'il y a là un rite initiatique. Il faut ces gestes d'obédience aux mécanismes raides pour accéder à la chaleur la plus intime, la plus désemparée. La voix humaine. D'ailleurs, les sons progressent insensiblement vers ce miracle. À l'écho glacial du pianotage succède une espèce de chanson ombilicale modulée qui vous conduit au point d'attache. Enfin, les coups d'appel plus graves, en battement de cœur et leur interruption comme une délivrance. C'est juste à ce moment-là qu'on relève la tête. Les premiers mots viennent avec une banalité exquise, un faux détachement. Oui, c'est moi. Oui, ça s'est bien passé. Je suis juste à côté du petit café, tu sais, place Saint-Sulpice. Ce n'est pas ce que l'on dit qui compte, mais ce qu'on entend. C'est fou comme la voix seule peut dire d'une personne qu'on aime. de sa tristesse, de sa fatigue, de sa fragilité, de son intensité à vivre, de sa joie. Sans les gestes, c'est la pudeur qui disparaît, la transparence qui s'installe. Au-dessus du bloc téléphonique bêtement gris s'éveille alors une autre transparence. On voit soudain le trottoir devant soi, et le kiosque à journaux, les gosses qui patinent. Cette façon d'accueillir tout à coup l'au-delà de la vitre est très douce et magique. C'est comme si le paysage naissait avec la voix lointaine. Un sourire vient aux lèvres. La cabine se fait légère et n'est plus que de verre. La voix, si près, si loin, vous dit que Paris n'est plus un exil, que les pigeons s'envolent sur les bancs, que l'acier a perdu. Chers auditeurs, merci. Si le cœur vous en dit, vous pouvez réécouter les émissions d'Encore Heureux en podcast sur le site de Radio B. Par exemple, cette saison, nous avons fait le portrait de Mileva Maric, la première femme d'Albert Einstein, le portrait également d'Arthur Schopenhauer ou de Charles Darwin. Je vous souhaite un très bel été sur Radio B et plein de petits plaisirs minuscules. À très bientôt.